un podcast France Culture.
Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord.
Indémodable, cette chanson de Georges Brassens. Mais parmi les jeunes qui la fredonnent au rendez-vous d'amis, qui sait ce qu'est un sémaphore ? Cette petite question sur une gentille chanson sera notre point d'entrée dans une aventure grandiose et impitoyable. Une aventure de science et de rêve, mais aussi de pouvoir et d'argent. Une aventure qui a changé le monde, votre monde. Les communications à distance.
Qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord.
Les contes des mille et une sciences par Cédric Villani, saison 2. Des ondes pour communiquer. Épisode 1. La danse télégraphique.
Le sémaphore, étymologiquement porteur de signal, c'est une invention qui nous replonge au cœur violent de l'histoire de France. À la Révolution. La jeune République, après la décapitation de Louis XVI, est en guerre avec le monde entier ou presque. Et que c'est dur de coordonner la défense de ce grand territoire cerné. Rendez-vous compte, à cette époque, il faut 3 ou 4 jours à un message pour parvenir à cheval de Paris à Strasbourg, sur le sanglant front de l'Est, et 1 semaine pour aller jusqu'à Toulon, occupé par les Anglais. Pour survivre, la France doit compter non seulement sur le courage de ses partisans, mais aussi sur l'audace et l'habileté de ses ingénieurs. Et justement, voici l'habile audacieux qui inaugure notre conte. Claude Chappe. Prêtre défroqué, sa famille est passionnée de politique et de science, il veut offrir à la France un système de communication révolutionnaire qu'il a expérimenté par curiosité. Au lieu de transporter une lettre, Claude et ses frères font seulement passer l'information avec des signaux visibles de loin et répercutés de station en station. Les stations de Chappe semblent incongrues. Imaginez un grand pantin de bois, un mât pour la colonne vertébrale et 2 bras articulés de 2 mètres de long. Chaque posture du pantin représente un signal, disons une lettre, et la danse du pantin, c'est un message tout entier. Avec une longue vue, l'opérateur d'une station peut observer la danse de la station précédente jusqu'à 15 km de distance et la reproduire avec son propre pantin pour la relayer à la station suivante. Et ainsi de suite. Ainsi, le message voyage 100 fois, 1000 fois plus vite qu'un cheval. À l'autre bout de la chaîne, on peut réécrire ce qui a été envoyé. Ainsi, ce sémaphore s'appellera aussi télégraphe. Ce qui écrit à distance. La France, sous la pression de la guerre, est le premier pays au monde à se doter d'un réseau de communications à distance. La donne militaire en est changée. Les armées de Napoléon seront les mieux informées de toutes. Et il ne faut pas longtemps aux financiers aussi pour comprendre tout le bénéfice qu'on peut en tirer. En affaires, c'est souvent le premier informé qui gagne la mise. Alors bien sûr qu'ils utiliseront le télégraphe. Et ils vont même le pirater. Comme font vers 1830 les frères Blancs. 2 spéculateurs audacieux qui portent bien mal leur nom tant ils sont malhonnêtes. Ils corrompent le directeur de la station de sémaphore de Tours pour que celui-ci incorpore dans la danse du pantin une information cruciale sur les cours de la bourse à Paris. Recevant l'information à Bordeaux 2 jours avant leurs concurrents, ils accumuleront les succès en bourse. Eh oui, les hackers ont été à l'œuvre dès l'aube des télécoms. Ce scandale contribuera à faire voter la première loi sur le monopole d'État du sémaphore. Le message télégraphique voyage très vite, mais les stations, elles, sont fixes. Et cette danse qui se reproduit, c'est ce que l'on appelle une onde, un signal qui se propage dans un milieu physique donné. Jean d'Alembert en écrit la première équation mathématique en 1746 pour une corde de violon vibrante. À partir de là, on découvrira des ondes partout. En premier, dans le son. Quand vous parlez, c'est une onde sonore que vous émettez dans un fluide comme l'air ou l'eau. Et ce qui se propage, ce sont les variations de la pression. dans cette danse de la pression, il y a la parole, la musique, les chansons ultrasoniques des dauphins ou des chauves-souris, tous les sons. Vitesse de cette onde, environ 340 mètres par seconde dans l'air ambiant. 4 fois plus vite dans l'eau. Après la parole, voici l'influx nerveux qui fait communiquer nos cellules. Ce sont des ondes aussi. Des ondes électriques qui se propagent le long des nerfs et des neurones. Troisième exemple, la lumière. Un rayon de lumière, en fait, c'est une onde électromagnétique, faite de variations couplées du champ électrique et du champ magnétique. Une danse à deux, un tango. On peaufine la description de ces ondes jusqu'à ce que le génial britannique James Clerk Maxwell leur donne leur forme finale vers 1880. Les fameuses équations de Maxwell, un pilier de la physique. Mais on n'a pas attendu Maxwell pour exploiter ces ondes qui se propagent à des vitesses incroyables. 1 million de fois plus vite que le son. Dans toutes sortes de milieux. L'air, le vide, un métal, qu'importe. En fait, cela fait 60 ans déjà qu'on cherche à les utiliser. Depuis que le Danois Ørsted a découvert le phénomène d'induction électromagnétique. Un courant électrique qui passe à côté d'une aiguille aimantée la dévie. Aussitôt, les savants français Laplace et Ampère se sont dit qu'on pouvait exploiter ce phénomène pour fabriquer un télégraphe bien plus efficace. Le message ne sera plus transmis par la danse d'un grand pantin de bois actionné par un humain, mais par la danse d'une petite aiguille actionnée par un signal électrique. Séduisant, mais pas facile. En pratique, la propagation n'est pas parfaite. Le signal électrique s'atténue. La danse devient confuse. Pour diverses raisons. Par exemple, par effet Joule. Un signal électrique dans un fil conducteur a tendance à faire chauffer le métal et s'affaiblit en même temps. Le taux d'atténuation du signal dépend des distances parcourues, des matériaux, du dispositif technique. Et pour contrer cette atténuation, il faudra placer le long du trajet des répéteurs, dispositifs conçus pour redonner du tonus au signal faiblissant. En 1830, la science est prête. Schilling en Allemagne, puis Gauss et Weber construisent les premiers télégraphes électromagnétiques avec un subtil système d'aiguilles. C'est le coup d'envoi d'une décennie de brillantes courses à l'innovation et de compétitions capitalistes sans merci pour fabriquer le modèle le plus efficace et le plus rentable. Les Britanniques Cook et Wheatstone fondent l'Electric Telegraph Company. Bientôt concurrencé par la British and Irish Magnetic Telegraph Company de Henley et Foster, puis par les Français Foy et Breguet. Mais face à ces savants et ingénieurs, celui qui emportera la mise, coquin de sort, c'est un artiste peintre. Son nom est devenu légendaire, Morse. Samuel Morse naît en 1791 dans une famille du Massachusetts, imprégné de religion rigoureuse et d'humanisme. C'est une rencontre sur un bateau qui changera le destin de Morse. À l'époque, la traversée de l'Atlantique dure 3 semaines. Il a tout le temps pour converser avec un autre passager, le scientifique Charles Jackson, qui lui parle d'Ampère et du rêve de télégraphe électromagnétique. Morse est convaincu qu'il a trouvé là son grand projet et s'y engouffre. Il conçoit son modèle de télégraphe avec le scientifique Leonard Gale et l'artisan Alfred Weil. Bien sûr, il n'est pas le premier inventeur du télégraphe, mais il le clame sur tous les toits jusqu'à la Cour suprême. Et ce qui est vrai, c'est que son engin est plus simple et robuste que la concurrence. Pas d'aiguille subtilement disposée, mais juste une bande de papier qui défile et un crayon qui se lève ou s'abaisse selon que le courant passe ou pas. Et ça trace des points pour les signaux courts et des tirets pour les signaux longs. Le fameux code Morse. Idée de génie, pour réduire la durée de transmission, Morse réserve les codes courts aux lettres les plus fréquentes. Ainsi, le E, un simple point, est 4 fois plus rapide à transmettre que le Y, très point, très trait. Cette astuce qui lui permet de transmettre 20 mots par minute, préfigure tous les systèmes modernes de compression d'informations, tels le MP4. et les points et les tirets vont déferler sur le monde, à travers toutes les capitales européennes, même dans la France qui abandonne à regret son cher télégraphe Chappe, même dans la conquête de l'Ouest américain où le service postal par cavalier, le Pony Express, est évincé en un tournement par les poteaux et câbles télégraphiques. Mais le brillant ingénieur et entrepreneur Cyrus Field a un dessein encore plus grandiose, relié par télégraphe l'ancien et le nouveau monde, avec un câble sous-marin à travers l'Atlantique. Imaginez l'aventure ! Faire passer du courant dans un câble sous-marin de 4000 km de long. Si jamais le câble est défectueux, ce sont des sommes colossales qui se retrouveront à l'eau, c'est le cas de le dire. Heureusement, on vient de découvrir un nouvel isolant, le gutta-percha. Un latex qui semble pouvoir protéger le câble de l'eau. Alors en avant ! Les experts se divisent. L'un va jouer un rôle majeur, William Thompson. Ha, il y a beaucoup à dire sur lui. Irlandais d'origine, c'est l'élite de la science britannique, le plus grand physicien de son temps avec Maxwell. Une institution à lui tout seul. En 1854, Thompson a le beau rôle de héros du câble transatlantique. Il montre que dans l'océan, l'atténuation est très forte et donc il faut un câble large et extrêmement bon conducteur. Il démontre une autre conséquence inattendue. Le temps de transmission du signal est proportionnel au carré de la longueur. Il calcule la vitesse que le bateau devrait adopter pour déposer le câble. Il invente un nouvel appareil à mesurer les champs électriques, si précis que Maxwell lui composera une ode. Bref, Thompson, c'est l'âme scientifique de l'expédition. Imaginez un câble de quelques centimètres de diamètre, reliant l'Irlande au Canada, long de 4000 km, pesant 7000 tonnes. Au cœur, 7 fils de cuivre torsadés ensemble, recouverts de 3 couches de gutta-percha, puis 18 brins ou torons, composés chacun de 7 fils métalliques entrelacés, le tout enrobé d'une mince couche de toile goudronnée. Ah, savamment enrouler le câble et le dérouler au fur et à mesure, c'est un métier en soi. Et si le câble casse, il faut le repêcher avec un gigantesque grappin pour l'épisser, le rabouter. Et après 3 expéditions et 5 ruptures, le câble est posé en 1858. La reine Victoria envoie un premier message triomphant au président américain Buchanan.
L'Europe et l'Amérique sont unies par la télégraphie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix et bonne volonté aux hommes sur terre.
En avant pour les réjouissances somptueuses et le feu d'artifice! Mais cela n'a qu'un temps. Même le génie de Thompson n'a pu surmonter les faiblesses de conception. Le moindre message demande une journée de transmission. Et finalement, le câble est définitivement abîmé quand un ingénieur balourd lui applique une tension bien trop forte. Il n'aura duré que 3 semaines. L'entreprise du câble transatlantique sombre, le moral est en berne, les capitaux s'enfuient. Pour comble de malheur, la guerre de sécession éclate bientôt. Et une autre compagnie de câbles se fait fort de relier les continents par la voie terrestre, en passant par le détroit de Bering. Il en faut plus pour abattre notre entrepreneur acharné Field. Pendant des années, il remue ciel et terre et océan. Diligente une enquête, licencie les incompétents, revoit tous les standards de production, réunit de nouveaux capitaux et fait une confiance aveugle à Thompson, pariant une somme colossale sur la justesse de ses équations. Field achète le plus grand paquebot du monde, le géant Great Eastern, et fait transformer les cabines passagers en une gigantesque soute pour câbles. Et en 1866, ce câble est posé. Et cette fois, il marche à merveille. Et à pas moins de 80 mots par minute. C'est un triomphe. Les protagonistes sont couverts de récompenses. Thompson est anobli, devenant Sir William Thompson, puis Lord Kelvin. Eh oui, celui des températures en Kelvin. Et depuis lors, les signaux n'ont jamais cessé de traverser l'Atlantique. Dès 1871, tout l'hémisphère nord est relié. De San Francisco à New York, à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Vladivostok, à Nagasaki. en une génération, un monde nouveau a émergé, l'Internet victorien. Le monde a rétréci et le commerce mondialisé s'y engouffre. Les Français aussi y font des affaires, même s'ils ont le regret de voir que les Anglo-Saxons dominent désormais cet outil de pouvoir, les communications à distance. Le télégraphe lance au monde un message, non de détresse, mais d'allégresse. Et pourtant, en qualité de transmission, on n'a encore rien vu. La génération suivante va s'y coller.